This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Léna Kim. Cette année-là, 1951 donc, la 4ème République est dans ses plus beaux jours, c'est-à-dire que les gouvernements se succèdent à un rythme effréné et que la France commence à devenir ingouvernable. Elle est par ailleurs engagée dans des opérations de maintien de l'ordre dans des pays lointains, dans ses colonies, dans son domaine colonial. Et sur ce fond de gouvernement improbable et d'aventure coloniale, eh bien, se développe un fait divers assez étrange. On a retenu sous le titre « L'affaire du pain maudit » cette série de faits divers. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une série d'intoxications alimentaires qui frappe la France à l'été 1951. Mais pas partout en France. Ça se passe à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, non loin d'ici. Et ces événements qui vont s'enchaîner feront quand même 5 morts, 50 personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. Près de 60 ans après ces événements de Pont-Saint-Esprit, on ne sait toujours pas à quoi les attribuer. Cliniquement, les symptômes étaient ceux d'une forme mixte d'ergotisme, mais ce diagnostic n'a pas pu être prouvé. Plusieurs hypothèses se sont succédées. En tout cas, la population de Pont-Saint-Esprit en garde un souvenir aigu.
La presse entière.
16 août 1951, la ville de Pont-Saint-Esprit est prise de panique.
Tout le monde était affolé. Hein. Les gens se questionnaient les uns aux autres et on n'était pas malade.
Il sautait dans son lit, il disait la maison va s'écrouler, je sens bien que les murs bougent.
Des centaines d'habitants poussent des cris, vomissent. Les malades sont envoyés à l'asile. L'ancien facteur du village s'en souvient encore. Il a été interné pendant plusieurs semaines.
Ils m'ont mis la table de force, et que j'ai gardé pendant une bonne huitaine de jours. Et je voyais du rouge, du dégoût, des serpents, des rats, tous les animaux de la nature peut.
Rapidement, le pain de cette boulangerie est mis en cause. Une seule et unique fournée qu'on estime alors contaminée à l'ergot de seigle, un champignon hallucinogène. Le boulanger, pointé du doigt, doit baisser son rideau. Pourtant, les habitants de Pont-Saint-Esprit estiment qu'il est innocent.
Ils n'ont jamais pensé que c'était le boulanger qui avait fait l'empoisonnement. Ils se sont rendus compte tout de suite qu'il y avait un problème du pain. Ils ont pensé à la farine. Mais la farine, vous savez, j'ai bien dit tout à l'heure, je vous disais que la farine n'était pas de bonne qualité, mais pas spécialement à la boulangerie ici. Tout le Gard en avait une très mauvaise farine.
Est-ce l'ergot de seigle qui est responsable de ces morts ? 5 personnes décédées après avoir mangé du pain maudit ou un pesticide utilisé à l'époque ? Les scientifiques n'ont jamais tranché. Aujourd'hui, un journaliste américain avance dans un livre une autre hypothèse, celle d'une implication de la CIA. Selon 2 anciens des services secrets, Pont-Saint-Esprit aurait été l'objet d'une expérience. Pour étudier l'effet d'une drogue sur la population, le LSD, les Américains en auraient pulvérisé sur la ville et les champs de blé.
Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit, qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison-Blanche.
Mais la thèse de la contamination au LSD américain a pour l'instant du mal à convaincre. 59 ans après, l'affaire du pain maudit reste toujours un mystère. Certains habitants l'appellent désormais le Da Vinci de Pont-Saint-Esprit.
Voilà, alors ce fut un fait divers qui a fortement marqué les esprits, comme on a entendu à travers les témoignages. Ce qu'on peut dire de sûr, en tout cas, c'est que 300 personnes ont été touchées et 5 sont mortes, dont une de 25 ans. Il reste que ce qui est retenu encore aujourd'hui comme une des hypothèses les plus probables et la plus étonnante, c'est celle de l'hypothèse du LSD. Dans son numéro du 18 février 2010, l'hebdomadaire nîmois La Gazette fait état de cette thèse et suivi en cela par d'autres médias, et elle établit que les hallucinations qui accompagnaient les convulsions des personnes auraient pu être celles déclenchées par le LSD, l'acide lysergique base du LSD, et synthétisé à partir de l'ergot du seigle. Donc on voit par là qu'il y aurait un lien à la fois entre la farine et l'épandage éventuel, puisque rien n'est prouvé, de LSD par la CIA. Alors sans céder à la thèse du complot tous azimuts, notamment avec la CIA, eh bien on va rester sur ce point d'interrogation d'une histoire restée sans réelle conclusion et en tout cas qui fait encore beaucoup parler dans la région de Pont-Saint-Esprit. Alors cette année-là, en 1951, donc au moment où la France et l'Europe se reconstruisent, après 5 ans après l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le vent d'air frais se poursuit sur le jazz américain. Nous avons évoqué la personnalité d'Art Pepper dans un précédent épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de celle de Zoot Sims. Zoot Sims est un saxophoniste ténor qui s'est fait connaître dans l'orchestre de Woody Herman, le grand orchestre de Woody Herman, dans un groupe de saxophonistes qui s'appelait les Four Brothers. Alors, les Four Brothers étaient composés donc outre de Zoot Sims, et de Lee Konitz, de Stan Getz et d'un quatrième musicien dont le nom à l'instant m'échappe. À partir de sa notoriété des Four Brothers, Zoot Sims, comme beaucoup d'autres musiciens ayant débuté dans des orchestres, prend son autonomie et commence à enregistrer sous son nom. Et c'est un de ces musiciens qui va constituer ce que, quelques années plus tard, on appellera donc le courant du jazz cool. Thank you. Swinging the Blues, une composition de Zoot Sims, enregistrée le 14 août 1951 à New York. Zoot Sims y est accompagné par Harry Biss au piano, Clyde Lombardi à la basse et Art Blakey, le fondateur des Jazz Messengers par la suite, à la batterie. Alors Zoot Sims, dans ce morceau, revisite un peu l'esprit Lester Young en lui donnant cette espèce de swing et de langueur qui caractérisait son style. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué ses origines dans le cadre du groupe des Four Brothers, et un des musiciens, le nom d'un de ces Four Brothers m'avait échappé et j'ai retrouvé son nom. Il s'agit de Serge Chaloff, qui jouait du saxophone baryton en compagnie donc de Sam Getz, de Zoot Sims, d'Herbie Stewart ou de Lee Konitz en alternance. Et précisément, et je parle de Lee Konitz, eh bien nous allons l'entendre lui aussi. Il fait partie de ces nouveaux arrivants en 1951. Lee Konitz donc va jouer un thème, c'est peut-être le plus moderne dans l'écriture de ces musiciens qui apparaissent dans ces années-là, et notamment en 51, il joue un thème de George Russell, esthétique. Esthétique, donc une composition de George Russell. Esthétique, ça s'écrit pour l'occasion E-Z-T-H-E-T-I-C. On voit par là le côté moderne de Lee Konitz, qui joue du saxophone alto dans ce morceau et qui dialogue en compagnie de Miles Davis. Et oui, ce n'est pas si souvent que Miles Davis s'invitait comme sideman dans une formation donc, qui comprenait également Billy Bower, Sal Mosca au piano, Arnold Fishkin à la basse et Max Roach, le distingué Delica Max Roach à la batterie, enregistré le 8 mars 1951 à New York. Alors 1951, c'est aussi l'année que choisit un vibraphoniste, peut-être le plus célèbre de tous les vibraphonistes de jazz, Miles Jackson, pour réunir autour de lui trois personnes et plus lui, en l'occurrence John Lewis au piano, Ray Brown à la basse et Kenny Clarke à la batterie. Les quatre musiciens se réunissent le 24 août 1951 et ils vont enregistrer un premier morceau et ce sera le début de ce qu'on appellera plus tard, du groupe s'appellera plus tard, le Modern Jazz Quartet. Milt meets Sid. Le Modern Jazz Quartet avant l'heure, puisque ça n'était à ce moment-là que le Miles Jackson Quartet, au cours de cette session du 24 août 1951. Alors, il y avait dans ce quartet deux personnalités. Miles Jackson, bien sûr, qui avait une certaine notoriété, puisqu'il avait été classé auparavant un peu dans l'émergence du bebop. Et puis John Lewis. John Lewis, c'est le pianiste. Alors, ces deux personnalités vont évidemment s'entendre très, très vite. Et c'est d'ailleurs au cours de cette session du 24 août 51 que les deux musiciens vont pressentir ce qu'ils allaient pouvoir faire ensemble. Et c'est John Lewis qui va prendre l'avantage pour deux raisons très simples. C'est que d'abord, il a fait des études de musique très élaborées. Il compose, il arrange et il a des idées très précises, très vite, sur ce que va devenir ce quartet. Et Mike Jackson a compris, lui, que bon, la formule est bonne, mais il n'a peut-être pas les perspectives que trace John Lewis. En tout cas, ils vont s'entendre parfaitement. Les deux autres musiciens, Ray Brown et Kenny Clarke, vont peu à peu céder la place. Alors, Ray Brown va partir l'année suivante parce qu'il est marié avec Ella Fitzgerald et donc il va aller l'accompagner dans ses tournées internationales. Donc, il va quitter. Et c'est Percy Heath qui va le remplacer. Et puis Kenny Clarke, lui, va également quitter le quartet pour avoir une vie plus autonome, lui-même étant leader de formation. Et c'est un musicien plus jeune, coniqué, extrêmement délicat et précis, qui va le remplacer. Et on va avoir là la formule définitive du MJQ, le Modern Jazz Quartet, avec les quatre musiciens. Donc, pour ceux qui les ont vus jouer, on se souviendra, le smoking et le nœud papillon, c'était des musiciens extrêmement élégants et qui jouaient une musique tout aussi élégante. Alors une musique dont certains ont dit qu'elle était à mi-chemin entre le classique et le jazz. En tout cas, elle était très écrite par John Lewis, mais laissée par moments quand même percer l'imagination et l'improvisation de la part des musiciens. En tout cas, c'est un groupe qui a fait fortune puisque on peut dire que tout en étant totalement atypique, absolument irréductible à aucun mouvement, eh bien, il en fait une carrière absolument remarquable. Je vous propose d'écouter D&E, une autre composition de John Lewis par le Milton Jackson Quartet. Belle vibration de l'instrument de Milton Jackson qui donnait son nom à ce quartet avant qu'il ne devienne donc le MJQ, trois lettres pour ce quartet d'exception. Ils en devaient enregistrer le même jour, ce 24 août 1951, un autre morceau, un standard de Jérôme Kern et John Auerbach, Yesterdays. Voilà, le jazz moderne avait franchi un pas de plus dans son histoire, dans le courant du XXe siècle. Demain, nous irons un petit peu plus loin, mais ce sera une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.